8h47, une des victimes de l'agression dans le Vieux-Québec le soir de l'Halloween, Rémi Bélanger, a enregistré une vidéo qui dure environ 45 minutes. Et il a été, on le sait, grièvement blessé. Il raconte comment ça s'est passé, mais surtout, et je fais entendre un extrait, il nous parle de ses réactions qui ont suivi l'agression et de sa volonté de savoir qui l'a frappé.
J'étais dans l'ambulance le 31 octobre. Puis je lui avais déjà pardonné. Puis je me suis dit... je vais essayer... Essayons pour le fun de dire la phrase suivante. Puis voyons ce que ça fait. Je l'aime. Puis je me suis rendu compte que c'est ça que je croyais. Puis que j'y croyais pour vrai. Puis j'y crois encore aujourd'hui. Pour moi, ce gars-là, c'est... S'il a été fucké par quelque chose pour commettre ce qu'il a commis, c'est sûr qu'il a été fucké par quelque chose.
Ça fait réfléchir, Lise.
Oh là là. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de situation. On se rappellera probablement la plus célèbre au Québec, en tout cas. C'est les deux adolescents, Chantal Dupont et Maurice Marcil, 14 et 17 ans, qui avaient été, elles, violées. Ensuite, ils avaient été étranglés et deux malfrats les avaient lancés par-dessus bord du Pont-Jean-Cartier. Ça, à l'époque, je me rappelle, même Claude Poirier avait dit que c'est probablement la chose la plus horrible qu'il avait jamais vue. Quelques années plus tard, les parents d'une des victimes, en fait Chantal Dupont, ont fait tout un travail, sont allés même à la prison de Port-Cartier pour rencontrer les tueurs et ont pardonné à ces garçons-là d'avoir tué leur fille de cette façon. En fait, l'avoir tué, point. Et je me souviens à l'époque que ça m'avait incroyablement brassé. Je dis pas que le cas actuel est pas intéressant aussi, mais bon, le type est heureusement pas décédé. Et c'est lui la victime. Mais tu sais, quand t'es un parent, puis que il arrive un truc pareil et que c'est les enfants qui sont les victimes, est-ce que pardonner, c'est... à la portée de tout le monde. Puis d'ailleurs, les parents de Chantal Dupont, et il y a probablement un lien, puis je dis ça sans aucune ironie, sont des chrétiens évangéliques et ont été, ils l'ont dit, étaient beaucoup portés par leur foi dans ce geste de pardon. Je pense que c'est peut-être le pape Jean-Paul II qui a mis ça à la mode, si on peut dire, parce que lui aussi, quand il a été agressé, il a pardonné à son agresseur et tout le monde s'est mis à parler de ça. Et c'est devenu une espèce de voie parallèle en psychologie réparatrice. Les thérapeutes qui soignent des gens qui ont eu des... bon, qui ont été victimes de crimes et ainsi de suite. Et on a vite rencontré la limite de l'approche du pardon. Parce que il y a quelque chose d'extrêmement culpabilisant chez celui ou celle qui dit « Non, moi là, je suis pas capable de pardonner. Comprends-tu? » Et que la machine lui dit « Faut que tu pardonnes. Si tu pardonnes pas, tu seras jamais heureux et tu te libéreras jamais de ce qui t'est arrivé. » Personnellement, je trouve ça assez tordu. Et c'est un geste, si on décide de le poser, parce que pour soi-même, et ce que ce garçon ici a fait, il y a aucun problème. Mais quand on sait que dans les corridors de la pop-psychologie, pour certains, c'est devenu, si tu le fais pas, t'es un loser, tu sais, faut que tu le fasses. Je trouve ça épouvantable. C'est comme faire revivre le crime une deuxième fois, une troisième fois. J'en reviens pas qu'on certains tentent d'imposer ça comme un modèle pour se sortir de la douleur d'avoir été agressé ou avoir un proche qui est agressé. Il faut faire tellement attention.
Mais justement, le Centre pour la justice réparatrice qui travaille à ce type de pas de réconciliation avec soi-même, c'est pas une réconciliation avec le criminel. Il fait très, très, très attention de pas imposer ça, puis de il ne parle plus, il parle pas de valeurs religieuses, il ne parle pas de pardon. Le pardon, c'est toi-même, tu peux décider de le donner ou pas, ça t'appartient, mais il parle de justice réparatrice. Et la justice réparatrice, c'est une façon de reprendre le contrôle de sa vie. C'est de dire, ben, est-ce que je vais vivre avec l'idée que je vais aller m'acheter un gun, puis que je vais poursuivre cette personne-là, puis je vais tuer lui et ses descendants et ses, ou la lignée de tous ceux qui l'ont mis au monde, parce que ma haine ne prendra jamais fin. Là. C'est, moi, si quelqu'un assassine mon fils, sans doute que je ressemblerai à un personnage des films américains, et Dieu sait qu'il y en a des films comme ça, où la personne est animée d'une vengeance inassouvissable. Impossible de la souvenir.
Mais on le voit pas vraiment dans le réel. On n'entend pas parler de cas de meurtre de gens qui voulaient se venger du...
Non, c'est vrai, c'est plutôt dans les films, dans la filmographie. C'est vrai. Mais c'est drôle. Moi, je me semble que ce serait mon premier réflexe. Et de voir il me semble de voir quelqu'un comme Rémi Bélanger, parce que il y a des gens qui arrivent à la même conclusion que lui après des années. Parce qu'il se dit, je veux me libérer de ce maudit assassin-là, de ce criminel-là.
Pour avoir interviewé beaucoup de gens qui ont été soit victimes ou qui ont perdu quelqu'un là, lors d'une attaque criminelle, je te dirais que la plus grande motivation que j'ai entendue, parce que tu leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Puis quand on ne le vit pas, ben on a de la misère à comprendre. Ben la réponse, c'était, je ne le fais pas pour lui, je le fais pour moi. C'est parce ça. Que je peux pas vivre avec... 24 heures, à chaque fois que je me lève en haïssant quelqu'un, puis la haine. C'était pas nécessairement un pardon, mais c'est comme je veux passer à un autre appel, tout simplement. Puis d'autres, il y avait beaucoup aussi, il y avait une dimension très spirituelle dans cette démarche-là. Là.
Mais Rémi Bélanger, ce qui est fabuleux, c'est que c'est arrivé presque instantanément. Ouais. Et ce qu'il raconte, puis il faut voir le reportage, là, c'est un vidéo, c'est pas un reportage, qui est relayé par le journal Le Soleil. Et là-dedans, bon, il y a de multiples blessures, vraiment, tu sais... Les clavicules fendues dans le sens de la longueur, ça veut dire qu'il est plein de vis. Puis tout le monde qui a des vis dans les épaules le dit, c'est comment que ça fait mal. Puis il y a eu la main sectionnée, c'est un musicien, il y a eu la main sectionnée, une partie du pouce qui est amputée, un doigt qui est perdu, etc. Et qui soit arrivé à cette vitesse-là à dire, bon, ce gars-là, c'est une personne qui lui aussi souffre énormément, c'est un malade mental, et Dieu sait que la maladie mentale, ça peut être extrêmement souffrant. Qui est arrivé à cette vitesse-là, à cette conclusion-là, c'est un être exceptionnel. Mais il y a aussi des êtres qui ont besoin, il y a aussi beaucoup, beaucoup de monde qui finissent par arriver à cette conclusion-là avec le temps pour obtenir aussi une forme de responsabilisation du criminel. Le criminel qui est enfermé puis qui s'en fout puis qui ne reconnaît pas son tort, ça t'apporte... OK, il est enfermé, c'est une bonne chose, mais... Toi, tu viens avec l'idée, mais pourquoi il a fait ça? Et là, avec un centre comme le Centre pour la justice réparatrice, en assoyant des gens qui ont commis des crimes puis des gens qui ont subi des crimes, pas les mêmes, là, ils prennent pas la personne qui a été victime d'un crime puis le mettre face à son criminel, mais ils prennent des gens qui ont commis le même genre de crime et qu'eux ont subi, et ils se aperçoivent que ces gens-là souffrent de maladies mentales, ont subi eux-mêmes des tonnes de haine avant de reproduire cette haine-là, étaient dans des dépendances qui ruinaient leur vie. Et ça leur donne une forme d'apaisement.
Oui, peut-être. Puis chez les criminels, bon, ben, est-ce que ça a un effet? Je reviens à mes deux adolescents qui ont perdu la vie sur le pont Jean-Cartier. Un des deux criminels... ça fait 38 ans qu'il est en prison, OK? On vient, pour la 8e fois, de lui refuser une libération conditionnelle. Pourquoi? C'est un psychopathe. Il est irrécupérable. Il y en a. Et non seulement il y en a, même s'ils ont été battus enfants ou... Et ça, c'est une tangente, là, dire, bon, ben, il a été poqué, il est arrivé des affaires, et ainsi de suite. Ça explique, mais ça ne devrait jamais excuser quoi que ce soit. Parce que c'est pas tous ceux qui ont été battus enfants qui deviennent criminels. Mais c'est une... Il n'y a pas de garantie là-dedans pour personne, même soi-même. Là, je ne sais pas, je n'ai jamais été dans cette situation-là, mais même si tu dis « je te pardonne » ou « je comprends » ou je ne sais pas trop quoi, est-ce que tu te mets instantanément à te sentir mieux? C'est compliqué.
Ben, y a une dame qui a fait un reportage à Radio-Canada chez Ah, j'ai oublié. Mais qui raconte que elle avait des meurtres. Elle a eu immédiatement des cauchemars de vengeance horribles, des cauchemars de vengeance à répétition. Et quand son fils a été assassiné, et que ses petites filles de 8 ans étaient elles aussi animées d'une haine sans fin, disant il faut tuer, il faut se venger. Et cette douleur-là était pour elle plus grande que. Était tellement grande que, sans y réfléchir, elle s'est dit non, il faut qu'on passe à l'étape de la réparation parce que je ne peux pas vivre avec autant de haine. Donc, c'est pas. Des fois, c'est pas un choix conscient, c'est pas après avoir fait le calcul de chaque chose, c'est une sorte de réflexe.
Merci à tous les deux, puis bon week-end à lundi. Déjà tout près de 9 h. Toujours des caries là, qui retiennent notre attention.